matin.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on n'écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, saison 5. On reprend les fondamentaux, un écrivain chaque semaine bien sûr, le franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy aujourd'hui. Visite de bibliothèque toujours, on commence avec l'immense Irène Frein. Nouveauté quand même, à la fin de l'émission, je réunis tout le monde, libraire, chronique, littérature, jeunesse et bande dessinée en même temps pour faire une sorte de mezzé littéraire où tout le monde trouvera de quoi lire. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. On le connaît depuis au moins Le Voyage d'Octavio, son premier roman, Sucre Noir ou Héritage, succès à chaque fois, prix, applaudissements, etc. Mais ces trois romans avaient la couleur littéraire de l'Amérique du Sud. On présente d'ailleurs souvent mon invité, Miguel Bonnefoy, puisque c'est lui dont il s'agit, comme l'héritier de Garcia Marquez, en tout cas de l'école sud-américaine. Il est d'ailleurs franco-vénézuélien, mais écrit en français. Cette fois, il revient avec un pas de côté. L'inventeur, chez Rivage, l'histoire d'un Français en France, un Français illustre, mais oublié. Bonjour Miguel Bonnefoy.
Bonjour.
Alors quoi, vous quittez l'Amérique du Sud ? Qu'est-ce qui
pour cette fois, j'ai quitté l'Amérique du Sud, peut-être parce que tout à coup, brusquement, j'ai trébuché sur un personnage qui m'a tellement fasciné, je me suis dit que je ne voulais pas passer à côté du roman. Ce personnage, Augustin Mouchot, pionnier de l'énergie solaire, est un fils de serrurier, un petit professeur de maths qui tout à coup décide d'inventer une machine qui permet de capturer les rayons du soleil comme les barrages capturent l'eau des cascades. Je me suis dit qu'il avait quelque chose de poétique et cet homme froid, austère, rigide comme ça, glacial, qui s'intéresse à la chaleur, à la lumière, à l'astre immense, il y avait là un paradoxe, il y avait là un oxymore initial et là où il y a croisement, il y a récit, il y a roman. Voilà pourquoi je me suis intéressé plus ou moins à ce personnage.
C'est complètement incroyable cette histoire, c'est-à-dire que c'est carrément l'un des précurseurs de l'énergie solaire et pourtant, d'entrer dans votre roman, vous le présentez comme ça, je lis. Son visage n'est sur aucun tableau, sur aucune gravure, dans aucun livre d'histoire. Personne n'est présent dans ses défaites. Rares sont ceux qui assistent à ses victoires. De toutes les archives de son siècle, la France ne conserve de lui qu'une seule photographie. Son existence n'intéresse ni le poète, ni le biographe, ni l'académicien. Personne n'entoure de légende sa discrétion, ni de grandeur sa maladie. Sa maison n'est pas un musée, ses machines sont à peine exposées. Le lycée où il fit ses premières démonstrations ne porte pas son nom. Toute sa vie, ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même et malgré cette solitude qui pourrait avoir la trempe et l'acier des génies de l'ombre, son destin n'est même pas celui d'un héros déchu. Comment ça se fait, Miguel Bonnefoy, qu'il est complètement disparu de l'histoire, effacé de la réalité ?
C'est exactement ça, c'est un géant oublié, c'est un génie oublié. Et ce qui est curieux, c'est que lorsque je faisais des recherches dans les archives municipales d'Indre-et-Loire, dans les archives municipales de Dijon, dans les archives d'Aix-en-Provence, dans celles de Pierrefitte qui sont ici à Saint-Denis pour l'exposition universelle, mais également sur Gallica.fr, qui est la bibliothèque numérique de la BNF, j'ai observé à quel point c'était un découvreur, un inventeur, un scientifique très reconnu et très connu de l'époque. Une sorte de rockstar qui avait fait parler de lui quand il avait eu la médaille d'or, qui avait fait parler de lui quand il était parti en Algérie, et peut-être on en parlera tout à l'heure, et qui attirait énormément l'attention de tous les journalistes qui se rendaient compte que le charbon était épuisable, salissant, qui tôt ou tard, il allait devenir beaucoup plus cher qu'il ne l'était parce qu'il fallait l'acheter à l'Angleterre, et que peut-être le vent, l'eau et le soleil allaient être finalement les seules sources d'énergie qu'on allait disposer pour pouvoir continuer à perdurer ce siècle vorace qui a été le 19e siècle pendant la révolution industrielle. Or, bien entendu, juste à ce moment-là, plus ou moins 1870, 71, 72, commence à arriver le moteur à explosion. On commence à découvrir le pétrole déjà en Allemagne et un petit peu plus tard à Santa Lucia, à Maracaibo. Et naturellement, on découvre des gisements de charbon dans l'est de la France. Et donc, fatalement, le soleil, petit à petit, eh bien, va se ternir, s'assombrir, si on peut utiliser le...
Vous avez dit que vous aviez fouillé les archives. Comment ça se passe quand vous tombez dessus ou sur ce genre de sujet ? Est-ce que vous êtes un obsessionnel ? C'est-à-dire que, crac, il y a un déclic et vous partez vous enterrer dans les archives pour plusieurs mois d'affilée pour récolter toute la matière pour votre roman ?
C'est tout à fait ça. Et j'ai vraiment fait un travail de glaneuse. Je suis allé de ville en ville, là où lui avait été, là où il avait vécu, là où je savais qu'il y avait personne qui avait écrit sur lui. Et j'ai essayé de rassembler la plus grande quantité d'informations. Je me souviens que dans le premier document Word, mais peut-être pendant presque 2 ans, j'avais 10 feuillets qui étaient divisés en 10 ans. Et à chaque fois que je trouvais une information, je mettais l'information que j'avais trouvée sur une des décennies qu'il avait vécues. Et puis ensuite, mon travail a été, à Berlin, d'essayer de lisser tout ça, de créer une structure narrative, de faire un échafaudage, de faire un squelette et d'enlever quelque part toutes les imprécisions ou toute la partie peut-être un peu trop anthropologique, trop recherche, pour ne pas faire une sorte de roman à thèse, roman pamphlet, sinon au contraire lui donner cette saveur, cette couleur de roman.
Ben justement, je l'ai dit, c'est un roman, et un roman qui parle d'un être qui a existé. Dans ces cas-là, j'évite de passer l'interview à essayer de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais quand vous écrivez, comment vous décidez de ça? Quand est-ce que vous décidez de raconter l'histoire telle qu'elle a été, en tout cas selon les historiens? Ou quand est-ce que vous décidez au contraire de romancer? Est-ce que d'ailleurs vous vous posez la question quand vous écrivez, ou est-ce que le choix s'impose à vous?
Non, bien entendu, je me pose la question. La frontière est toujours délicate entre l'histoire et la fiction, et la réalité, elle, comme disait Aaron Aperfil, peut se permettre le luxe d'être invraisemblable. Les choses sur lesquelles je suis tombé dans l'histoire de Mouchot sont tellement rebondissantes, sont tellement étonnantes, c'est tellement une histoire pleine de ricochets que je me disais régulièrement, si je mets ça, on ne va pas me croire. Quelque part, j'étais obligé de mentir sur la réalité pour mieux dire la vérité du personnage. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je me suis retrouvé régulièrement dans ce problème. Et parallèlement à ça, il y a énormément de passages dans la vie de Mouchot qui sont un peu mous, parce que c'était un inventeur qui avait peu d'intérêt aussi vis-à-vis de la vie. C'est un homme dont on ne connaît absolument aucune fascination pour la musique, pour la littérature. Il n'y a aucune correspondance avec les autres inventeurs ou les autres découvreurs de son siècle. Ce n'est pas un homme qui a voyagé. C'est un homme qui s'est marié tard, qui n'a pas eu d'enfants, qui n'avait pas d'amis. Donc, résultat des courses, c'est un homme de l'ombre, tenace et persévérant, qui est comme ça, comme un hibou sur sa machine en train d'essayer de serrer des boulons et de poser des miroirs paraboliques les uns à côté des autres. Donc fatalement, il y a de longs passages de vie qui ont de la mollesse et qui n'ont aucun intérêt romanesque. Et mon travail a été de resserrer le plus possible ces passages-là et de donner peut-être avec la langue, avec le style, je ne sais pas si c'est réussi ou pas, mais c'est justement de donner ces côtés un peu plus étonnants, plus étincelants, plus éblouissants.
Et c'est très réussi et c'est flamboyant comme tous vos romans. Justement, ça crée une sorte de contraste avec le vrai personnage qui était Mouchot.
Absolument.
Est-ce qu'on le trahit dans ce cas-là un peu?
C'est tout à fait ça. Bravo, ouais. J'aime beaucoup l'idée de la trahison. C'est exactement ça. Puisque lui, c'était un personnage qui, au contraire, n'avait rien d'explosif, n'avait rien de prodigieux, n'avait rien de napoléonien, de wagnérien, comme ça, quelque chose de noble et de courageux. Du coup, il ne ressemble pas à ces héros mythiques qu'on peut imaginer, que ce soit Icare, que ce soit Prométhée, qui sont des figures sur lesquelles j'ai essayé de m'épauler, puisque eux aussi essayaient de conquérir le soleil d'une certaine manière. Sinon, au contraire, cet être très terne, très ramolli, très rabougri, très chétif, il fallait lui donner d'une certaine manière de l'épaisseur et du relief. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de faire avec une langue peut-être un peu plus savoureuse, plus pulpeuse, qui permettait de donner ce je ne sais quoi qui lui manquait. Est-ce que c'est réussi ou pas? Je ne sais pas. Mais l'équilibre était celui justement de faire que la page soit suffisamment grosse, un personnage décrit maigrement.
Mais moi, j'ai échoué. Faute professionnelle, j'aurais dû vous demander dans la première partie ce qu'il a inventé exactement, ce Mouchot. Mais on va devoir attendre la deuxième partie dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Miguel Bonnefoy qui publie L'Inventeur chez Rivage, l'histoire romancée mais quand même d'Augustin Mouchot, grand inventeur, précurseur de l'énergie solaire en France au 19e siècle et qu'on a complètement oublié et qui ressuscite avec ce roman solaire et flamboyant. Mais donc, Miguel Bonnefoy, j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, J'aurais dû commencer par là. Qu'est-ce qu'il a inventé exactement, cet Augustin Mouchot ?
Ce qui est étonnant, c'est qu'au fond, il n'a rien inventé. Et ce qu'a fait Mouchot a été tout simplement de coupler deux machines. À une époque, en plein 19e siècle, dans lequel la révolution industrielle crée un monde où tout est mu par la machine à vapeur, il faut créer de la vapeur pour pouvoir faire tourner les machines. Eh bien, en effet, à ce moment-là, on utilise soit du charbon, soit du bois. Et ce que va inventer Mouchot est une machine avec des miroirs paraboliques qui concentre les rayons solaires sur une chaudière qui, elle, à son tour, fait chauffer de l'eau, crée de la vapeur. La vapeur passe par un tube qui arrive à la machine à vapeur et donc fait bouger un piston et crée une révolution, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire un mouvement avec un bras. Et c'est ça ce que va inventer Mouchot, c'est-à-dire coupler deux machines, marier deux machines, les joindre, jongler avec. Et ce qui est assez beau, je trouve, avec le mot « inventeur », c'est que on découvre quelque chose lorsqu'on invente, mais étymologiquement, c'est aussi ce qui vient à toi. « In venio », ce qui vient à toi. Donc quelque part, Mouchot, est-ce qu'il a réellement inventé ou est-ce que tout simplement, il n'a pas été attentif au bruit sourd du monde et il s'est rendu compte qu'il y avait une brèche quelque part avec une machine inventée et il a décidé de recevoir cette machine, de la voir venir à lui pour pouvoir la mettre dans une application industrielle. On pense souvent que, en science, les succès sont dus à un hasard. Et donc on se dit, ah ouais, non, bah alors si tout le monde avait un hasard dans sa vie, donc il pourrait être un inventeur ou un scientifique. Mais il y a cette belle phrase de Pasteur qui dit que le hasard arrive seulement aux esprits préparés.
Il faut l'accueillir.
Il faut l'accueillir. Et Mouchot, en effet, était à ce moment-là dans un instant de porosité suffisamment attentif pour pouvoir recevoir cette invention.
Puis il y a l'inventeur d'un trésor, c'est celui qui trouve un trésor, on dit un inventeur de trésor, et Mouchot trouve une sorte de trésor technologique, en tout cas une idée magnifique, et simplement, ça a l'air de rien, mais d'écrire la machine à l'écrit avec des mots, c'est assez compliqué, parce que c'est une machine, une fois qu'on a dit que c'était une parabole, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est très clair dans votre roman. Est-ce que vous avez simplifié le mécanisme, ou est-ce que vous avez regardé les schémas pour essayer de donner une description la plus précise possible ? Ça a été un enjeu d'ailleurs ou pas ?
Absolument, j'ai lu des pages et des pages et des pages interminables et profondément ennuyeuses sur tout le travail scientifique pour construire une machine avec un champ lexical, une terminologie et un vocabulaire qui n'a rien de romanesque, qui n'a rien de lyrique. Et pourtant, j'ai essayé d'y voir quelque chose de beau si on pouvait justement l'associer, l'épauler sur une belle métaphore. La machine de Mouchot, on ne se la représente pas tout à fait lorsqu'on ne voit pas un graphique. Elle ressemble plus ou moins à une fleur, à un arum. Mais c'est une fleur qui est peu connue. Donc même en mettant dans le livre le mot arum, exactement, on se retrouve dans le même problème. Donc il a fallu en effet sans cesse trouver des comparaisons, trouver des images, trouver des métaphores, des allégories, essayer de donner une sorte de cartographie élégante d'une machine qui, elle, n'avait rien d'élégant. Et pourtant, j'ai eu l'impression que, pendant que j'écrivais, pendant que je voyais ce personnage s'échiner à la tâche et courber le dos puissamment sur sa machine, il y avait quelque chose d'herculéen et que même si on n'utilisait pas un vocabulaire scientifique, on pouvait toutefois mesurer à quel point cet homme avait voulu s'attaquer au métal des choses.
Et alors, on entend au début les cling-clang-cling derrière les palissades de Mouchot qui est en train d'essayer de construire sa machine, de rater, de recommencer, etc. Mais une fois qu'on a la machine, en fait, ce n'est rien, une invention, tant qu'on n'a pas un soutien financier, par exemple, pour pouvoir ou la commercialiser ou pour pouvoir la perfectionner, avoir du temps pour s'en occuper, parce qu'il était prof de maths, d'abord.
Absolument.
Il a fallu se dégager ce temps-là aussi. Et est-ce que vous pouvez nous raconter les présentations de sa machine ? Présentation qu'on peut qualifier de complètement foireuse parfois.
Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné lorsque je suis tombé sur ces différents archives et sur les registres de sa vie, qu'au début, à chaque fois qu'il faisait une démonstration, elles étaient désastreuses et tout à fait catastrophiques. Et c'était souvent avec un mot, ciel peu clément. Et il avait l'élégance, ou du moins la courtoisie face à l'histoire, de dire que tout simplement c'était le ciel qui était peu clément, qui lui avait ne lui avait donc donné pas assez de soleil pour pouvoir faire tourner sa machine et que donc ça n'avait pas fonctionné. La première démonstration qu'il fait, c'est dans le lycée
Descartes,
la cour du lycée Descartes à Tours, devant le proviseur, devant des personnalités publiques du monde scientifique. Et là, en effet, le ciel est peu clément et donc il ne peut pas finir sa machine. Cependant, il attire l'attention de certains journalistes qui en parlent avec des mécènes, qui eux, à son tour, en parlent avec des commandants d'artillerie, qui s'intéressent à la chose d'un point de vue militaire et qui finalement en parlent à Napoléon III. Et donc, il aura la surprise étonnante de recevoir chez lui une lettre de cachet où il y a une invitation pour faire une démonstration devant Napoléon III, qui, encore une fois, sera un ciel peu clément. Donc, vous pouvez imaginer, pour un écrivain qui, 150 ans plus tard, tombe tout simplement sur cette phrase « ciel peu clément », eh bien, il est obligé d'en faire une page. Et à ce moment-là, c'est là où on injecte un petit peu la fiction dans une réalité qui, elle, est bien plus encadrée. Cette première démonstration devant Napoléon III sera également désastreuse. Et il faudra attendre une deuxième invitation pour que, pour la première fois, à la Villa Eugénie, à Biarritz, il ait le moment d'apothéose de sa vie, où tout à coup la machine se met à fonctionner devant tout le monde, non seulement devant Napoléon III, mais également devant des roturiers, devant des classes normales. Et c'est comme si toute la France, en même temps, voyait le salut, la promesse d'une énergie nouvelle.
Ce que vous nous dites, c'est que ces présentations désastreuses, ces échecs, quand les nuages masquent le soleil au moment où lui doit proposer, montrer sa machine, ce ne sont pas des échecs en fait, ce sont des marches qu'il gravit et qu'ils l'emmèneront au succès temporaire, mais au succès quand même de son invention.
Absolument, et c'est ce que je trouve assez beau aussi dans cette histoire, c'est ce côté presque icaresque, presque prométhéen, de voir comment ce personnage a dû avoir plusieurs embûches, a dû les combattre, a dû lutter, a dû dépasser aussi des adversités et des confrontations de son existence pour finir par atteindre quelque chose qui était presque impossible à atteindre. Et il y a vraiment l'image comme ça du petit moucheron quoi, qui essaye de voler, et combattre les vents pour essayer d'arriver jusqu'à la lumière. Est-ce qu'il y arrive ou pas ? Eh bien, pour Mouchot, ce ne sera hélas pas le cas. Mais son combat était tellement beau que ça pouvait peut-être justifier l'écriture d'un livre.
Vous avez parlé d'Icare, donc c'est le fils de Dédale qui se colle des ailes avec de la cire pour s'envoler, mais il s'approche du soleil et la cire fond et il tombe. Et vous avez écrit sur un texte sur Icare aussi il y a longtemps. C'est ça votre spécificité, c'est de déceler des mythes dans toutes les histoires.
Tous les personnages qui ont quelque chose de mythique, de providentiel, de mythologique me semblent fascinants. Peut-être parce qu'on revient aux récits fondateurs, et les récits fondateurs sont bien entendu notre première racine, c'est le creuset, là où viennent se fondre toutes nos littératures et toute notre imaginaire collectif, toute notre idiosyncrasie, mais également parce que ça leur permet à chaque personnage contemporain de leur donner une sorte de portée un peu universelle et plus vaste. Lorsque je suis tombé sur le personnage de Mouchot, je n'ai pas pu m'enlever de la tête les personnages, comme vous dites si bien, de Icare, de Prométhée ou même de Sisyphe, qui, je pense à l'image lorsqu'il est dans le mont Chélia en Algérie et on le voit pousser sa machine solaire comme Sisyphe pousserait son rocher. Il y avait quelque chose qui me plaisait là-dedans, avec cette espèce de personnage isolé, seul au monde, transcendantal, qui essaye de s'attaquer à quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui et qui pourtant y va avec abnégation et ténacité.
Et oui, parce qu'il va partir en Algérie pour trouver un ciel beaucoup plus clément et un soleil fort pour essayer sa machine, et va réussir aussi à créer de la glace avec du feu. Ça, on en parle dans un instant.
La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, le retour, toujours avec Miguel Bonnefoy et son inventeur, publié chez Rivage, magnifique roman court, 200 pages, vif mais dense sur l'histoire incroyable d'Augustin Mouchot, précurseur de l'énergie solaire au 19e siècle et que pourtant on a complètement oublié aujourd'hui, alors que sa vie et son invention surtout est magnifique, et l'itinéraire de son invention aussi. On a dit tout à l'heure qu'il partirait en Algérie pour trouver du soleil, pour tester sa machine, mais il y a un moment extraordinaire dans le roman où il réussit à fabriquer de la glace avec du feu.
Incroyable, incroyable moment, et vous ne me croirez pas naturellement, mais il se trouve que lorsque j'étais dans les archives de Pierrefitte à Saint-Denis et que j'essayais de m'intéresser à l'exposition universelle de 1878, je suis tombé sur des tours de feuilles avec des documents interminables, avec des cadastres, avec des cartographies où tu avais placé les différents pavillons, et une petite lettre d'Abel Piffre, son associé, qui écrit à Napoléon III en lui disant « Monsieur l'Empereur, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, Augustin Mouchot est parvenu à créer un morceau de glace à la seule force du soleil. C'était déjà une information que j'avais, parce que lorsque j'avais regardé la série documentaire Cosmos de Neil deGrasse Tyson dans l'épisode du soleil, lorsqu'il parle d'Augustin Mouchot, il évoque en effet cet instant à l'exposition universelle de 1878, alors qu'on est en septembre, de cet homme qui a inventé une machine solaire, qui décide donc de la coupler avec une machine à vapeur et qui la couple avec une troisième machine, qui est une machine de Raoul Pictet, qui est l'ancêtre, en quelque sorte, des réfrigérateurs, une machine qui parvient à faire de la glace, c'est de congeler de l'eau. Et ce que j'ai trouvé sublime dans ce documentaire, mais également dans la lettre que j'avais retrouvée d'Abel Piffre, c'est que tout à coup, le croisement parfait des éléments et le viol des lois de la physique se faisait devant tout le monde, puisque pour la première fois de l'histoire, au milieu du 19e siècle, un homme, en plein après-midi, parvenait seulement, avec les rayons du soleil, à faire un morceau de glace qu'il a ensuite tendu aux gens qui se sont passés de main en main la glace qui dégoulinait comme ça au soleil. L'image était tellement belle que je ne pouvais pas ne pas en faire une sorte de colonne principale, presque de pivot de tout le roman.
Alors, pour les romans qui s'appuient comme ça sur l'histoire, j'évite évidemment d'aller voir sur Google à chaque fois que je me pose une question sur ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais quand j'ai lu Abel Piffre, à la fin, quand j'ai terminé le roman, je suis quand même allé voir Abel Piffre s'il avait existé. Parce que rien que ce nom, on se dit, c'est comique, quoi. En fait, c'est une invention de romancier. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet Abel Piffre? Et je vous laisse le faire, parce que je ne voudrais pas aller trop loin. Je ne voudrais pas spoiler, n'est-ce pas, le roman.
Tout à fait.
Parce qu'il joue un rôle très important dans cette histoire.
Il joue un rôle essentiel. Abel Piffre est l'associé d'Augustin Mouchot. Augustin Mouchot est déjà un homme de 50 ans, 60 ans quand il le rencontre pour la première fois. Et il a des congestions pulmonaires, c'est un homme fiévreux, c'est un homme qui est sourd, qui est partiellement aveugle. Donc il est déjà dans le déclin, un homme ramolli, comme ça, rabougri par la vie et amer. Et tout à coup, il rencontre presque son opposé astral. Abel Piffre, c'est un jeune centralien qui a 28 ans, qui est grand, qui est fort, qui a une poitrine de rhinocéros, qui a ce je ne sais quoi de flamme dans les yeux qui rend jaloux les hommes et qui attire les femmes. Et brillant, rapide, vif, un homme qui sait prendre la parole. C'est-à-dire qu'il a absolument tout ce que Mouchot n'a pas. Il a ce côté olympien, ce côté napoléonien, ce côté wagnérien, comme ça, noble et courageux. S'il fallait lui trouver un signe astrologique, il serait lion. Et tout à coup, Mouchot se dit « voilà l'homme qu'il me faut pour pouvoir donner le coup d'accélérateur, pour intéresser les investisseurs, pour attirer les entrepreneurs, pour participer à différentes conférences avec des barons et avec des gens, des industriels, qui peuvent avoir la possibilité de transformer une machine artisanale faite dans une maison en une véritable révolution industrielle. » Donc, et lorsqu'il rencontre Abel Piffre, il se rend compte que c'est l'homme qu'il lui faut. Mais naturellement, Abel Piffre, c'est un homme du 19e, un homme qui sait très bien aussi quels sont les ressorts et les labyrinthes du siècle et va chercher également à faire fortune. C'est Abel Piffre qui va lui racheter ses brevets et en effet, ensuite, il aura une vie étonnante que je ne dévoile pas ici.
Augustin Mouchot, qui est tellement chétif comme ça et maladif, qu'il pose, quand il s'endort, un petit papier sur sa table de nuit où il est inscrit « Même si j'en ai l'air, je ne suis pas mort ».
Exactement.
Je sais pas, j'espère que c'est vrai. En tout cas, c'est magnifique dans le roman, ces passages-là. Mais vous ne l'avez pas loupé, je veux dire, dans la description. Vous l'avez bien accentué, le côté chétif et maladif. Ne serait-ce que sa naissance, c'est déjà un petit bout de chair inoffensif et maladif.
J'ai très peu d'informations, bien sûr, sur son enfance et sur son adolescence, puisqu'on a peu d'informations sur les gens du 19e lorsqu'ils n'ont pas réussi à écrire leur nom dans le mur de l'histoire. Mais lorsque j'étais aux archives municipales de Dijon, j'ai pu effeuiller différents registres dans les collèges et dans les lycées où il a été, du Morvan. Et je suis tombé en glanant vraiment avec beaucoup de précision sur, de temps en temps, une phrase qui dit « Le jeune Augustin Mouchot n'a pas pu être présent pendant une semaine. Le jeune Augustin Mouchot a eu un problème au poumon. Le jeune Augustin Mouchot a eu un problème épidermique. » Donc je me suis rendu compte qu'il avait sans doute eu une adolescence et une enfance fragile, difficile, avec une santé qui était comme ça, était un peu fissurée. Et donc, naturellement, au moment d'écrire le livre, je me suis dit qu'il fallait forcer ce trait-là pour pouvoir ensuite justifier plus facilement ses pauses de congés, lorsqu'il pose des congés pour pouvoir continuer à faire ses machines, et également la surdité et la cécité qui va venir plus tard.
Parce qu'en plus de ça, à force de regarder le soleil, sa vue baisse au fur et à mesure.
Tout à fait.
J'ai un mot sur le style, parce que je l'ai dit dans vos précédents romans, comme on est en Amérique du Sud, avec cette ambiance aussi de réalisme magique parfois, enfin pas tout à fait, mais quand même cette poésie flamboyante comme ça. Là, on est en France, au 19e siècle, avec un petit personnage tout chétif, même s'il y a du soleil partout. Est-ce que vous avez été obligé, ou est-ce que malgré vous, votre style, c'est cassé, quoi. Est-ce que vous avez été obligé de retenir un peu la plume ?
Eh bien, ça a été à la fois une des contraintes et une des outrances de l'écriture. D'un côté, je me rendais compte que j'avais un personnage qui n'avait rien de tropical, rien de baroque, rien de luxuriant. J'essayais de m'accrocher là où je pouvais pour saisir un peu de chair, et puis je me rendais compte que dans ce Second Empire, dans cette ambiance très noir et blanc, très Compiègne, très Saint-Cloud, eh bien, je ne trouvais absolument aucune attache pour pouvoir y mettre quelque part, injecter un peu de baroque. Et parallèlement à ça, moi je viens, comme vous l'avez si bien dit, d'un héritage et d'un legs d'une culture latino-américaine avec une littérature qui, elle, au contraire, est flamboyante, étonnante, fleurie et colorée, bigarrée. Et mon travail a été sans doute d'essayer de marier les deux. Encore une fois, ça a été difficile parce qu'il y a beaucoup de passages de la vie de Mouchot où il ne se passe absolument rien. Il a une vie ennuyeuse. On peut difficilement lui trouver des instants comme ça de révolte ou des instants explosifs. Donc, peut-être qu'avec la langue, j'ai pu compenser un peu des instants plus ennuyeux pour essayer de lui donner un peu de flamme. Mais je ne sais pas si ce froid et ce chaud fonctionnent. Une chose est sûre, c'est que je me suis beaucoup amusé à l'écrire.
Et malgré ça, comme dans tous vos romans précédents, à chaque fois, on retrouve des personnages, ou en tout cas une pierre qui est posée là, un personnage qu'on croise juste dans une ligne comme ça, qui sont déjà dans vos autres romans. Tous vos personnages tournent dans votre œuvre sans arrêt.
Absolument. J'aime cette idée de faire correspondre les livres les uns avec les autres, de créer des systèmes d'écho, des passerelles, de montrer qu'il y a des porosités entre les livres. Et j'aime aussi retrouver chez les autres écrivains, lorsqu'ils sont en train de constituer un ensemble, des personnages qui se retrouvent ici et là, parce que ça montre que l'auteur, eh bien, n'a peut-être pas parvenu à faire le tour du personnage en un seul livre et qu'il lui a fallu plusieurs livres pour pouvoir réellement lui donner de l'épaisseur et de la force. Pour caractériser un personnage, il est difficile de le faire en un seul roman, bien qu'il y ait plein d'écrivains qui le réussissent, mais moi je me rends compte que j'aime bien pouvoir les retrouver ici et là et leur donner une sorte de renaissance littéraire.
En tout cas, vous avez inventé un roman magnifique, L'Inventeur, donc, c'est chez Rivage. Merci beaucoup, Miguel Bonnefoy.
Merci beaucoup, Nicolas Caro. Bravo.
À bientôt. Et je signale aussi que vous serez au Grand Salon de Nancy le week-end prochain. Le livre sur la place. Beaucoup de monde, beaucoup de belles rencontres. Nous, on se retrouve tout de suite pour une belle rencontre aussi. C'est la visite de bibliothèque, celle de l'écrivaine Irène Frein. À tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est livre.
Nicolas Caro.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de se rendre chez Irène Frein. La romancière est venue souvent dans l'émission, notamment pour son dernier roman, L'allégresse de la femme solitaire au seuil. J'avais envie de voir de quel livre elle se chauffe. Allons-y. Bonjour Irène Frein.
Bonjour Nicolas Caro.
Merci de nous recevoir chez vous.
Oui, ça va être toute une aventure, mes bibliothèques.
Ah bah, je ne suis pas surpris, parce que je vous connais un peu.
Oui.
Et bon, c'est un peu le principe de cette séquence, mais la façon dont vous rangez les livres vous correspond bien.
Elle est un peu dérangée.
À la fois distinguée et en même temps, on peut s'y perdre.
Oui, c'est un peu foutraque, mais je sais à peu près où sont les choses et les livres. Et j'ai toujours aimé dans la vie garder un principe d'aventure.
Mais surtout, je me doutais, je savais que vous étiez bibliophile. Et en fait, il y a des livres partout. Là, on est dans votre salon. Il y a trois bibliothèques. On est passé dans le petit couloir de l'entrée. Il y a des livres à hauteur d'enfant, quoi, hein, empilés.
Oui.
Et puis à côté, là, je vois la salle à manger remplie de livres. Et alors là, c'est pas des piles, c'est des montagnes de livres qui m'arrivent quasiment au cou.
Oui.
Moi, je suis 1m80. Oui. C'est assez impressionnant.
C'est-à-dire qu'elles sont presque aussi grandes que moi. Alors, elles n'ont pas été triées encore parce que j'ai passé ces dernières années à écrire. Donc, ça doit être aussi des nids à poussière formidables. Mais bon, on va ouvrir les fenêtres cet été, on va tout ranger.
Ouais, il y a bien 3-4 mètres carrés de piles comme ça, très très hautes. Oui. Mais vous allez en faire quoi ?
Alors, pour les livres qui m'ont touchée, pour les livres d'amitié, je les garde. Et donc, j'ai un endroit spécial dans cette bibliothèque salle à manger. Il y a deux anciennes portes, vous voyez, qui sont qui donnent sur des étagères, en fait.
C'est une double porte, mais en fait, voilà. Ça donne sur des étagères.
Elle donne sur, on croit qu'on va rentrer dans un autre appart. Alors, actuellement, on ne peut pas ouvrir parce qu'il y a les dossiers de sécurité sociale devant.
Force ou quoi ?
Ben oui, 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 non, mais ce n'est pas un problème. Il y a des enveloppes pour mon courrier. Et il y a... Alors, donc là, j'envisage un déménagement de ces livres à la campagne, dans un endroit aussi d'amitié, qui est le billard, à la campagne, parce que ce sont des livres qui ont vraiment compté pour moi et aussi qui rappellent beaucoup de souvenirs, de rencontres ou d'amitié pour certains. Et ça fait partie de ce que j'appelle les bibliothèques fondatrices, avec celle du salon où il y a tous les pléiades d'œuvres qui m'ont nourri depuis... j'ai commencé à acheter des pléiades dès l'âge de 20 ans. Donc, il y en a
ouais,
pas
parce
mal.
Que là, il y a beaucoup de classiques.
Oui, vous ne cassez pas la figure.
Non, il y a Virginia Woolf, il y a Colette, il y a Duras, il y a Jacques Prévert, il y a Blaise Cendrars. Et là, je vois une vieille édition de l'Attrape-cœur, sans doute d'époque. Hein.
Oui, elle appartenait à ma sœur Denise, dont j'ai parlé dans Un crime sans importance. Et donc, elle me l'avait laissée. Donc... c'est un livre émouvant pour moi. Et il y a aussi beaucoup de souvenirs attachés à certains livres. Alors, donc, ce sont des codes personnels pour...
9 francs.
Elle a dû l'acheter en 63. Et c'est un livre qui m'intriguait beaucoup dans sa chambre, dans le fameux cosy qu'on partageait.
Pourquoi vous intriguez ?
Parce que l'attrape-cœur, qu'est-ce que ça veut dire ? De la même façon, elle avait un pléiade de Proust. Je me disais, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, mais... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Donc, j'avais ouvert le Pléiade parce que quand elle n'était pas là, je dormais dans ce fameux cosy qui datait des années 50. Et j'avais 10 ans et longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Je continuais. Et je me disais, j'arriverai jamais à la hauteur de Denise. Je ne comprends pas vraiment, quoi. J'ai basculé dans Proust, qui pour moi était absolument essentiel, à l'âge de 15 ans. Et ça a été un foudroiement.
On est au milieu de milliers de livres qui sont sur la tranche. Mais il y en a un qui est de face, qui est mis en majesté comme ça, c'est « Où est Charlie ?» Panique au musée.
Alors, c'est parce que j'ai un petit-fils qui s'appelle, qu'on appelle Charlie, mais il n'a plus l'âge de le lire, mais je le garde là. Je me dis, il va y arriver un moment, un enfant dans la maison qui va s'intéresser à ça, qui va le feuilleter, et il est là en forme d'invite pour être offert, vous voyez.
Il y a un livre qui m'a intrigué dans la bibliothèque centrale, là. C'est votre livre qui vient de sortir, L'allégresse de la femme solitaire. Donc, Irène Frein et tout, il y a bien le nom de l'auteur. Mais la couverture est très particulière. C'est pas la couverture du Seuil. C'est une reliure bleue, comme ça, avec une pastel au milieu, gravée et tout, en surimpression.
C'est une très belle reliure, oui.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors,
c'est un collector ?
Alors, pour moi, c'est un livre qui compte beaucoup. C'est un lecteur de Nice, d'ailleurs, qui a laissé un petit mot à l'intérieur, qui achète mes livres, qui aime beaucoup mes livres, qui les lit d'abord, et qui est très attaché à ce que j'écris, et qui, à chaque livre, depuis quelques années, fabrique avec beaucoup de talent une reliure. Il a fait pour Beauvoir in Love, là aussi, et Je te suivrai en Sibérie. Ouais. Et c'est un tel témoignage d'affection, et met des petits mots à l'intérieur, mais d'une grande élégance. Il m'en offre à chaque fois, et à chaque fois je suis très embarrassée, et me dit non madame, je vous offre ces reliures, moi j'aime faire des reliures, il ne les vend pas, il ne fait pas de métier, je relis
amateur,
et j'offre
quoi.
Les livres que j'ai aimés, et c'est très magnifiquement fait, avec beaucoup de goût, et c'est bouleversant, et comme moi je suis une affective, j'ai reçu aussi un de mes livres, vous voyez là-haut,
ah oui.
Vous pouvez l'attraper, c'est Davy, qui a été c'est quelqu'un qui en a fait une poule pliée.
Enfin, avec les pages du livre, il a plié, ça fait une sculpture comme une poule qui sort du livre.
Absolument, c'est des vies.
Incroyable.
Vous voyez, en édition reliée, il doit y avoir aussi, là peut-être qu'il voulait que je lui demande de faire mais d'autres livres comme ça, il y a de sa carte. Et il y a des quantités de rencontres.
Oui, alors, là, vous faites beaucoup de salons, beaucoup de signatures. C'est quoi votre rapport avec vos lecteurs?
Il est fort parce qu'ils viennent, ils me parlent. J'en fais pas des dizaines de salons, mais des salons importants parce que je trouve que rencontrer les lecteurs, les écouter, c'est aussi comprendre le monde du livre et comprendre ce que recevoir de l'affection. Mais il m'arrive de temps en temps d'être agressée.
Agressée pourquoi ?
Des gens qui viennent vous dire des choses désagréables, comme ça, parce qu'il y a des fous qui errent dans les salons aussi, vous le savez bien.
Ouais. Vous en avez déjà eu ?
Bon, oui, ça arrive. De loin en loin, je dirais. Ouais, parce que je dois être quand même plutôt une bonne fille. Mais il y a des gens qui viennent, qui hantent les salons parce qu'ils sont dans une grande solitude et une grande détresse et qui peuvent s'en prendre à vous comme ils s'en prendraient d'ailleurs aux voisins.
Il y a beaucoup de Pléiades et aussi des livres anciens. Et qu'est-ce que c'est ça ?
C'est
des livres pittoresques.
Oui, c'est un livre surtout sur l'Inde. J'ai beaucoup de livres sur l'Inde et des trucs d'exploration. Donc j'ai trouvé ça. Et c'est des vieux guides, un vieux guide de l'Inde. Il y a aussi un livre que je relis tout le temps, c'est Alice au Pays des Merveilles, dans mon édition d'enfant. La collection Rouge et Or, c'était très célèbre. Et là, vous voyez...
Il y a des petits marque-pages.
Oui, et c'était les illustrations qui m'avaient aussi fait basculer dans... Voilà, ça, je trouvais fascinant, ces illustrations surréalistes des années 50. Et la collection Rouge et Or était une collection très aimée, très populaire. Oui. Ça, c'est un cadeau d'anniversaire que m'avait fait Denise. Et j'ai basculé dans Alice aux Merveilles, au Pays des Merveilles, je ne cesse de le relire. Vous voyez ?
Et vous avez mis des marque-pages sur les illustrations.
Je préfère, oui. Et surtout le chat de Chessard que j'adore. J'adore aussi le lapin blanc qui court toujours. Également la duchesse complètement cinglée.
C'est un des premiers romans que vous avez lus ?
Oui. Et aussi, ça m'a fait comprendre qu'un livre, c'était la liberté, qu'on pouvait inventer ce qu'on voulait. La parabole du début où Alice descend quand même dans un puits tapissé de livres.
Et puis les premières phrases, c'est quasiment votre histoire. Je lis. Alice commençait à se lasser de rester assise sur la berge et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait risqué un œil sur le livre que lisait sa sœur.
Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai basculé. Vous démêlez mon âme noire. Non, je rigole. Mais vous avez tout compris. Il n'y a pas un commentaire à faire.
Alors, on va passer dans le couloir qui m'intéresse aussi, à cause encore de ces piles de livres récents, livres contemporains. C'est parce que vous faites partie de prix
de jury
et tout ça.
Alors là, ils sont entassés. Donc, ce que je fais, je fais des listes quand même. Je suis une food track organisée. Et donc, je prends une semaine pour lire les livres proposés. Et donc, à ce moment-là, je les range. Mais là, il va parce que je les accumule au fur et à mesure des arrivées. Et donc, voilà. Et là, ça n'a pas été rerangé, vous voyez. Il y a encore des livres, certains que j'ai vraiment aimés et que je vais garder. Mais
c'était une manœuvre aussi, et c'était une astuce et une ruse pour qu'on aille dans votre bureau, qui est juste à côté du petit couloir, qui là aussi est plein de livres. Mais ce qui m'intéresse, là, on vient de rentrer, il y a un grand bureau, enfin non, pas un très grand d'ailleurs, un bureau ovale au milieu, au centre de la pièce, avec un ordinateur. Bon. Et puis, il y a un tableau. Genre tableau de comité d'entreprise.
Oui, c'est ça. Oui. Véleda, j'ai acheté sur Internet parce que je voulais une bonne dimension.
Et vous avez mis des petits magnettes avec
c'était
plein de documents.
C'était livré avec. J'ai acheté ce modèle-là parce que les magnettes étaient livrées avec. Je suis assez pratique, finalement.
Et c'est le plan de votre dernier livre.
Ah, ce n'est pas les plans. Enfin, là, j'ai fini par établir la suite des parties.
La question, terminé, deux, la vieille histoire, trois, terminé, le registre, voilà. Quatre, ce que dit. Ah oui, à chaque fois, vous mettez terminé.
Oui, c'est d'accord. Ça. Et après, je ne marquais plus rien parce que j'étais complètement partie. Alors, il y a des idées.
Il y a une feuille personnage, il y a des dessins sur des papiers calques.
Il y a beaucoup de pistes que j'ai abandonnées. Vous
Pourquoi
voyez
ils sont sur du papier calque, les dessins
Parce qu'ils ont été, ce que j'explique à la fin du livre, dessinés d'après. C'est mon petit-fils qui les a dessinés, d'après des documents qui étaient très rares et qui étaient hors droit, je précise bien, et qu'on a scanné ensuite pour les insérer dans le livre. Il y a eu un petit peu sur les dessins une affaire de famille. Ça, j'avais trouvé dans la rue. J'avais
trouvé il y a un roi de trèfle.
Je me suis dit, bon, ça peut porter bonheur, pour que le livre ne se plante pas totalement.
Puis alors, il y a un dessin, parce que donc, je rappelle votre dernier livre, L'allégresse de la femme solitaire, c'est l'histoire d'une femme qui débarque un jour sur une plage de Californie. Elle arrive d'une petite île et c'est la seule représentante d'un peuple qui a plus ou moins disparu. Sa langue a disparu et c'est une indienne avec une cape en plumes et une robe de plumes. Oui. Et là, il y a un dessin avec cette femme. C'est elle.
Alors, c'est une extrapolation totalement kitsch d'une artiste de Santa Barbara, puisque c'était passé sur cette plage de Santa Barbara en 1853, qui a essayé de représenter sa robe de plume. Et vous voyez, c'est un objet dont on avait la copie, ça, qu'elle a représenté. Alors, moi, je ne la vois pas du tout comme ça.
Je ne la voyais pas comme ça non plus.
Non, elle n'est pas du tout comme ça. C'est d'un kitsch total. Tous les témoignages disent qu'elle était très belle. Mais c'est pour faire rêver les enfants. Et donc, elle a l'air un peu rude. Moi, ça m'amusait beaucoup. Et elle était là. Et donc, quand je levais les yeux pour chercher mes mots, je la voyais sur cette plage. Et voilà. Donc, c'est des bazars, ça aussi.
On parlait de bateaux aussi. Et il y a une très belle maquette d'un bateau 18-19e.
C'est le Saint-Gérant.
D'accord. C'est quoi l'histoire de ce bateau et de cette maquette?
Alors, le Saint-Gérant est un bateau construit en Bretagne. Mon grand-père s'appelait Gérant. Et Saint-Gérant, c'est un endroit où il y avait énormément de bois. Et donc, Saint-Gérant avait été construit à Lorient, ma ville natale, port de la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle. Et il a sombré. Et Paul et Virginie est inspiré, de Bernardin de Saint-Pierre est inspiré, cet auteur du XVIIIe, de l'histoire du Saint-Gérant. Et moi, je l'ai acheté il y a très longtemps, quand je suis arrivée pour la première fois dans l'océan Indien, à l'île Maurice, qui n'était pas du tout... c'était quasiment vide à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de tourisme, dirons-nous. Pas beaucoup d'hôtels. Mais il y avait quelqu'un qui construisait des maquettes du Saint-Gérant. Et donc, je me suis ruinée pour l'acheter.
Pour le rapatrier aussi.
Parce que j'étais en train d'écrire... je ne vous dis pas. Il était dans un truc en carton. Alors là, on avait très peur de le casser, de le perdre. Mais
je ne l'ai pas dit, mais c'est un trois mâts.
Oui, il est
vieux gréement.
J'ai fait
il doit faire 80 cm de long, quoi.
Oui, si vous voulez, si je raisonnais en termes marchands, c'était un très bon placement. Parce que ça ne se fait plus avec cette qualité. Mais pour moi, j'étais en train d'écrire mon premier livre, Quand les Bretons peuplaient les mers. Et déjà, je m'étais dit, c'était sur les Bretons du XVIIIe siècle, essentiellement, qui avaient les oubliés de l'histoire française, qui sont les marins bretons. Et donc, j'avais voulu aller comprendre ce qu'était l'île Maurice, parce que finalement, c'était la jumelle de l'Orient au XVIIIe siècle. Mmh. Et moi, enfant, j'ai énormément rêvé sur la Compagnie des Indes, toutes sortes de choses. Donc, c'est un repère. Ce sont des repères, ce sont des ancrages littéraires. Et tout ça, c'est accumulé, comme à côté, vous avez une petite marionnette malinaise. Alors, les marionnettes, nos personnages sont aussi un peu des marionnettes. D'ailleurs, Balzac fonctionnait avec des marionnettes. Celle-là a compté pour moi. Et puis, vous avez au mur, vous avez des manuscrits. Là, vous avez des manuscrits de la Bhagavad Gita, une petite page comme ça que j'avais achetée à Delhi un jour où j'avais 300 roupies dans la poche, quoi. Mais c'était il y a très longtemps.
Il y a évidemment encore des piles de livres, mais là, c'est des piles posées. C'est-à-dire que vous partez du mur, vous les mettez de face et vous avancez vers le milieu de la pièce. Et ensuite, vous mettez par-dessus.
Je pense qu'il y en a certains qui sont là depuis 10 ans. Donc là, j'ai une forte pression de la famille pour ranger tout ça, quoi. Mais le rangement, pour moi, c'est de la mort. Le bazar, c'est la vie. Parce que le rangement, c'est jeter. trier, jeter, se séparer. Parce que dans ces piles, il y a aussi des choses qui vaut mieux être partagées avec d'autres. Parce qu'on peut... Moi, je ne suis pas la BNF, quoi. Le problème, c'est des appartements d'écrivains, c'est qu'on n'a pas la surface de la BNF et surtout les gens pour les gérer, les répertorier. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la BNF du temps que c'était à Richelieu. Je connais des histoires de bibliothèques incroyables. À la Bibliothèque nationale, par exemple, un des administrateurs avait, il me l'a dit, je ne vais pas dire son nom, mais il est très âgé maintenant, avait caché des épreuves qui avaient circulé dans Paris, dont j'avais eu la copie, de la version originale de Jean Édernalier, L'honneur perdu d'un François Mitterrand. Et cet administrateur malicieux l'avait caché une nuit, m'avait-il raconté, derrière un rayonnage. Il savait qu'il allait partir et qu'il y aurait ce qu'on appelle le recollement de la bibliothèque, c'est-à-dire que nationale, qu'on allait tout trier, tout remettre en ordre. Et il avait laissé de façon anonyme ce petit trésor, finalement. Et donc, c'était une photocopie d'une photocopie que je possédais, qui m'avait été donnée par un éditeur qui voulait se marrer. Et ma propre photocopie, annotée de la plume de Vincent Ponté, alors je l'avais récupérée, si vous voulez, l'ancien directeur du Monde, était la suivante: tout est vrai. Et j'avais quand même un peu peur de posséder ça. Elle est cachée quelque part dans cet appartement, mais je ne sais plus où. Et donc,
c'était le livre qui révélait
toute l'histoire de Mazarine. Voilà. Et moi, quand je l'avais lu, j'avais dit: Mazarine, mais employer ce prénom dans un roman, c'est assez nul. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'avais vraiment pris pour un truc complètement... totalement inventé. Alors, ce manuscrit qui... On avait un peu peur d'avoir ça quand même, parce que d'ailleurs on n'avait peut-être pas tort, parce qu'à un moment il y a eu des écoutes téléphoniques de pas mal de gens de l'édition. Ben, bon, moi j'avais parlé à mon attaché de presse, mais pas de ça. Et il avait été écouté, j'ai vu son nom. Et bon, peu importe, tout ça c'est d'histoire ancienne. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce manuscrit-là, enfin ces épreuves, c'était des épreuves en fait, j'ai dit manuscrit, et dans cet appartement, ce sont des épreuves premier jet. Il y a quelquefois des corrections de Jean d'Éderne et je ne sais plus où. Donc, bah voilà, c'est plus tard quand j'irai voir au ciel d'autres bibliothèques divines.
Surtout, ne rangez rien.
Oh, merci.
Merci beaucoup, Irène Frein.
J'adore.
Merci pour votre accueil.
Merci.
Et je rappelle le titre du dernier roman d'Irène Frein, L'allégresse de la femme solitaire, c'est au seuil. D'autres livres encore dans un instant pour les plus jeunes, pour les bédéistes et le coup de cœur de la libraire Sandrine Babu, phénomène de la rentrée littéraire 2022. A tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix et Livre, lu et approuvé avec Héloïse Goy pour la littérature jeunesse, Sébastien Bordenave pour la bande dessinée. Les deux sont enfin réunis. Et notre libraire de la semaine, Sandrine Babu, librairie L'Instant à Paris. Bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonjour Nicolas. Nicolas.
On commence avec vous, Héloïse. Tiens, quel est votre livre?
Eh bien, ça ne vous a pas échappé, Nicolas, c'est la rentrée scolaire, au désespoir de pas mal d'enfants qui ont déjà mal au ventre à l'idée des notes, des contrôles qui arrivent. Vous étiez bon élève à l'école, vous, Nicolas?
Oui, mais j'étais très angoissée.
Ah oui?
Ouais.
Vous aviez mal au ventre, alors à la rentrée.
Exactement.
Eh bien, je vous propose un livre pour rendre tout ça plus ludique et moins douloureux. Ça s'appelle « La BD qui t'aide à te concentrer et à mieux t'organiser ». Pardon, Sébastien, je vois vos sourcils se lever. C'est une BD, mais pas que.
Bah non, c'est vachement bien.
Mais pas que, vous allez voir. Et puis mince, hein, tous les moyens sont bons pour faire aimer l'école. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Déjà, un scénario avec des petits personnages qui nous prennent la main pour nous donner des conseils, comme décrocher un peu des écrans, ça vaut aussi pour les grands, hein. Valoriser ses talents, oser demander de l'aide ou se dégager du temps pour ses passions. Par exemple, Jimmy est un passionné de musique, mais il est très désordonné et il a tendance à manquer de motivation. Il y a aussi Noah, un mordu de dessin un peu trop accro aux écrans, ou encore Diane, une sportive qui fait trop de choses à la fois, qui n'arrive pas à s'organiser. On suit donc tous ces jeunes personnages évoluer, on les voit évoluer positivement grâce à des trucs et astuces qu'ils nous proposent de réaliser à notre tour.
Par exemple,
en fait, il y a Vous allez voir, en fait, il y a un cahier d'exercices à la fin, c'est-à-dire qu'on les voit faire pendant le scénario et à la fin, c'est à votre tour de remplir le cahier. On peut, par exemple, remplir une carte mentale. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est très à la mode en ce moment. On en entend beaucoup parler. En fait, c'est un outil qui permet de...
To-do list.
Alors non, il y en a aussi. Mais une carte mentale, regardez, c'est un outil qui permet de se rappeler des choses grâce à la visualisation. En fait, on fait des dessins avec des petites flèches. Par exemple, Nicolas, si vous souhaitez avoir une vision d'ensemble sur vos prochaines émissions, vous dessinez une case libraire avec des flèches vers Sandrine Babu ou Stanislas Rigaud. Vous dessinez un autre cercle pour les prochains auteurs invités avec leurs livres. Et puis surtout, vous pouvez dessiner un petit nuage avec des cœurs, avec vos deux excellents chroniqueurs, et des flèches vers les prochaines merveilles qu'ils souhaitent conseiller à vous, auditeurs.
Un tableau Excel, moi je fais un tableau Excel.
Moi c'est moins fun. L'ouvrage propose aussi des super to-do list, vous en vouliez Nicolas. Par exemple, qu'est-ce que je dois réviser cette semaine? Qu'est-ce que j'aimerais avoir fait aujourd'hui? Quelles activités je prévois de faire ce week-end? C'est donc un manuel de méthodologie ludique qui peut déstresser les enfants de l'école. Moi, je précise que ça marche aussi pour les jeunes qui aiment bien l'école. Hein. Comme ça, tout le monde est content.
Ça ne peut pas faire de mal.
Ça ne peut pas faire de mal. La BD qui t'aide à te concentrer et à mieux t'organiser, c'est de Géraldine Bindi, et Mathieu Roda. Et c'est chez Casterman.
Le titre...
C'est un peu long.
Ouais, ils auraient pu mettre un truc un peu plus catchy. Quoi.
C'est un livre où tu as le droit d'écrire dessus.
On sait de quoi il s'agit.
Oui, ça j'adore.
Sandrine Babu, on revient à la rentrée littéraire avec vous, avec ce qu'on peut appeler le phénomène de cette rentrée littéraire. Enfin, ce premier roman qui commence à vraiment émerger, et ça arrive à chaque rentrée littéraire, bah c'est celui-là.
Ouais, je crois que ça se dessine là. Ça s'appelle Les enfants endormis d'Anthony Passeron chez Globe. Moi, je l'ai lu il y a quelques temps et voilà, tout de suite, j'ai été complètement émue, happée par ce livre. Dont j'avais déjà effectivement un peu entendu parler. Et là, ça y est, je vois qu'il est... On commence à en parler, il est dans des sélections de prix, il va passer à la grande librairie, enfin voilà, on sent qu'il se passe quelque chose.
Et alors, même le coup de cœur du libraire de La Voix et Livre, je veux dire, c'est,
ah ouais, c'est, quand
c'est
même,
pas rien.
C'est pas rien, surtout. Donc, Les enfants endormis, c'est un premier roman, alors c'est entre le roman et le récit, plus exactement. Anthony Passeron, il se décide 40 ans après la mort de son oncle, qui est mort du sida, alors on sait dès le début, il n'y a pas beaucoup de suspense là-dessus, à raconter l'histoire de sa famille, qui a été complètement... brisé par la mort de cet homme, par la maladie. C'était quelqu'un qui était héroïnomane, donc c'est comme ça qu'il a été infecté. Et il a été infecté à une époque où le sida, on n'en connaissait rien. Et d'autant moins peut-être dans ce petit village de l'arrière-pays niçois. Donc ça a été vraiment une déflagration, ça a brisé des vies, une famille. Alors je vous raconte ça sous un ton tragique. Ce livre, sa grande force, c'est que c'est évidemment tragique, mais c'est très pudique, très émouvant, et il nous met en parallèle en fait l'histoire de sa famille, qui raconte un chapitre sur deux, avec l'évolution de la maladie et des découvertes sur la maladie. Comment on a découvert les premiers cas, comment on a trouvé ce que c'était, comment on a développé les premiers traitements, toutes les erreurs qu'il y a eu, les échecs, tout ça bien sûr avec le drame, la détresse de tous les malades qui ne savaient pas comment ils pouvaient être soignés. Donc déjà, on apprend beaucoup de choses, et c'est important sur une maladie qui a fait quand même... presque 40 millions de victimes. Et c'est l'histoire de cette famille, donc de ce petit village qui, au début, c'était des... Ils avaient une boucherie, c'était un peu les notables locaux. Avec le temps, tout ça se délite, le village se vide, les ados, jeunes adultes commencent à se droguer et le sida arrive. Voilà, donc je ne raconte pas plus, mais vraiment à ne pas rater, très très belle lecture.
Et ça fait partie de ces livres qui, en fait, deviennent des phénomènes parce qu'ils sont défendus justement par les libraires. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous le mettez devant la porte, quand on entre, on voit ce livre-là. C'est-à-dire que vous sautez sur chaque client pour leur donner d'abord ce roman-là.
Alors un peu, oui. C'est assez imperceptible. Effectivement, on fait tout ça. On en parle autour de nous, à nos amis libraires. Aux clients, on va le proposer en premier. On va dire, vous arrêtez pas au sujet qui est effectivement tragique, mais lisez-le absolument. Et le client qui vous fait un peu confiance, il va dire, bon, ok. Et il va revenir en disant, ah mais oui, mais j'ai adoré, je l'ai conseillé, je reviens l'acheter pour l'offrir. Et puis voilà, ça, c'est parti.
C'est sûr que ce n'est pas le plus riant, mais on n'est pas obligé de rigoler tout le temps. Vous nous redonnez le titre.
Les enfants endormis, Anthony Passeron chez Globe.
Parfait. Avec Sébastien Bordenave, en général, en revanche, on rigole. Surtout s'il y a une citation finale, j'espère qu'il y en a une.
Bah, suspense.
Je vous écoute.
Eh bah, deux BD. La première BD fait écho à l'actualité récente. Elle s'appelle Ancienneté. On la doit au dessinateur Bast. Elle est sous-titrée « Tentative d'évasion artistique en milieu carcéral ». Tout est dit. Le dessinateur a proposé à des mineurs de la maison d'arrêt de Gradignan un atelier dessin, un atelier BD, et il le raconte dans la BD. Le principe pour l'auteur est simple, franchir une bonne dizaine de portes à barreaux, puis rencontrer 4 mineurs volontaires, du papier, des crayons, et c'est parti. Alors forcément, même si ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui participent à l'atelier, les demandes se ressemblent. Ils veulent tous apprendre comment on dessine des meufs, des guns, des voitures tunées avec des flammes dessinées dessus. Et parfois, il y a quand même des vrais moments de grâce, comme la fierté et le bonheur de réussir à dessiner une perspective, et parfois aussi une ambiance électrique qui s'embrase. Un participant met du liquide vaisselle dans l'aquarium de la salle d'activité. Il y a un poisson rouge dedans, un autre s'insurge. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'ils me foutent le cafard à tourner en rond dans leur bocal qu'ils crèvent. Mais ils t'ont rien fait, les poissons. Bah, le mec que t'as buté non plus, il t'a rien fait. Si, justement, le mec, il a essayé de me violer. Ah ouais, effectivement, c'est sûr que t'as bien dû le chauffer, le mec. Bref, il y a quand même une ambiance de tension terrible dans cette BD. Les prénoms ont été changés, mais pas les dialogues. Je vous cache pas qu'on sort pas totalement indemne de cette BD très particulière. Elle est éditée chez la Boîte à Bulles. Elle s'appelle Enchienté, un titre trouvé par un participant de l'atelier de dessin, parce que ici on est en chienté, en chien, on est traité comme des chiens. La maison d'arrêt de Draguignan a été construite en 1964, taux d'occupation aujourd'hui 200%.
En plus loin, chienté.
Exactement.
Et la deuxième, alors, rien à voir.
Rien à voir, une BD publiée chez Glénat. Oui, exactement. Overseas Highway. Overseas Highway. Alors, je me suis renseigné, c'est le nom d'une des routes les plus mythiques des États-Unis en Floride. On la surnomme aussi l'autoroute au-dessus des flots. En fait, cette autoroute, c'est une route qui donne sur un pont, puis sur une île, puis sur un pont, puis sur une île, une île, un pont, et ça pendant 182 km. C'est là où se passe la BD. Alors, dépaysement garanti. C'est au-delà des paysages, surtout une immersion dans la pègre la plus violente. Stacy, l'héroïne 25 ans, un peu paumée, accepte un boulot dans le garage d'un ancien pilote automobile. On y répare des voitures, mais on y blanchit aussi de l'argent de la CANF, une fondation de Miami qui, grâce à l'argent de la drogue et du trafic d'armes, organise avec la CIA des attentats contre le régime de Cuba. Là aussi, je me suis renseigné, c'est loin d'être totalement de la fiction. Les dessins sont sublimes et la BD raconte une course-poursuite de dingo. Stacy va devoir livrer un colis suspect parce que Domingo, son collègue, a vu son coude éclater au marteau pendant un règlement de compte. Bref, c'est une BD de bandits avec une héroïne badass. Si vous aimez les fusillades, les belles bagnoles, les gueules de voyous, les cascades, les cigares, c'est pour vous. Il n'y a pas de sexe. Voilà. Il y a pas de sexe, Nicolas. Souvent, vous me reprochez de sélectionner les BD sur ce critère. Là, il n'y en a pas.
Vous êtes libre.
Ça s'appelle Overseas Highway de Guillaume Guéraud et Fred Druard chez Glénat.
Vous nous avez trouvé une petite citation?
Allez, une citation de Gaston Lagaffe, donc de Franquin. La différence entre un conflit et un cas, c'est qu'un conflit dégénère tandis qu'un cas génère. J'ai mis 3 fois pour la comprendre, celle-là.
Ouais, bon, attendez, vous me l'avez fait.
La différence entre un conflit et un cas, c'est qu'un conflit dégénère tandis qu'un cas génère.
Heureusement qu'il y a des neurones avec
Gaston Lagaffe.
Je vous laisse méditer là-dessus. On rappelle votre titre, Héloïse.
Oui, la BD qui t'aide à te concentrer et à mieux t'organiser, de Géraldine Bindi, Mathieu Roda, c'est chez Casterman.
Et Sandrine Babu.
Les enfants endormis, Anthony Passeron chez Globe.
Parfait, merci beaucoup à tous les trois. Et je rappelle le titre du roman de notre invité, Miguel Bonnefoy, L'Inventeur chez Rivage.
Europe 1.
Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission, Grégory Delpech pour la programmation musicale et à la réalisation, Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.